Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Ben, disons qu'avec la chaleur, le beau temps, le soleil, ça donne un petit coup de pouce, n'est-ce pas? Marianne Paquette derrière le micro avec vous pour les 28-30 prochaines minutes. Hein? On n'est pas à la minute près. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Je vous parle aujourd'hui de streptocoque, un mot qui vous sonne peut-être quelques cloches. Du moins, c'est une infection bactérienne assez répandue. Je l'apprenais en préparant l'émission. Et ça suscite des maux de gorge principalement, assez violents, assez douloureux. Je le disais, assez commun, assez répandu, responsable d'environ 5 à 15% des maux de gorge chez les adultes et de 20 à 30% chez les enfants. Ça a touché pas mal de personnes dans mon entourage dernièrement, le streptocoque. Donc, j'ai eu envie d'en discuter avec notre infirmière en résidence, Jocelyne Gadebois. Elle sera là en deuxième partie d'émission, Jocelyne. Aussi, vous dire que mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Et au Canada, on en parle beaucoup de cette maladie dite neurologique, parce que la population est l'une des... Notre population est l'une des plus touchées au monde pour un total d'environ 100 000 personnes présentement atteintes. Ça fait pas mal de monde. J'en parle aujourd'hui. Question de se sensibiliser à cette question parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vit avec de la maladie. Nadine Prévost, directrice des programmes, services et relations gouvernementales du côté de la Société Sclérose en Plaques. Est-ce que je le dis comme il faut, Nadine?
Oui, c'est très bien.
La Société Sclérose en Plaques.
Société canadienne de sclérose en plaques.
Voilà, je ne l'avais pas sous les yeux, c'est un peu bête. Est avec nous en studio pour nous en parler également Anna, Salah et Dinelvi avec la maladie. Petit pont musical et on se rassemble tout ensemble. Mesdames, bonjour. Nadine Prévost de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Bonjour.
Bonjour.
Et également Anna, Salah et Dine que l'on joint par téléphone. Bonjour Anna.
Bonjour.
On vous joint au travail. Votre patron est bien gentil de nous donner la chance de vous parler cet après-midi.
Oui.
Alors, maladie neurologique, je le disais tout à l'heure, qui touche beaucoup de personnes ici au Canada, pour laquelle il n'y a pas encore de remède. C'est une maladie aussi, Nadine, qui est difficile à cerner, la sclérose en plaques, parce qu'il y a plusieurs manifestations, il peut y avoir plusieurs types de symptômes.
C'est vraiment la caractéristique principale de la sclérose en plaques, c'est ses multiples visages. Ça peut être des symptômes liés à la mobilité ou encore de la fatigue, des symptômes... Il y a plusieurs symptômes aussi qui sont invisibles. La fatigue, c'est invisible. Les engourdissements, les raideurs, les spasmes, les problèmes de vessie. C'est très, très, très varié. La liste des symptômes possibles est longue, mais évidemment, les gens n'auront pas tous ces symptômes-là. Mais ça peut... être un petit peu plus compliqué pour diagnostiquer cette maladie-là à cause des multiples visages. Et c'est aussi une maladie imprévisible. On ne sait pas de quelle façon ça va évoluer quand on vient juste d'avoir un diagnostic.
Ouais. Parlant de diagnostic, de votre côté, Anna, Salah et Dine, ça a été assez tôt dans votre parcours de vie. À 24 ans, suite à un deuxième enfant, deuxième grossesse, vous avez reçu ce diagnostic. Vous aviez à ce moment-là 24 ans. C'est tout jeune. On réagit comment à ce genre de nouvelles-là, Anna?
C'était à 23 ans et je vous dirais que c'est assez compliqué.
Mm-hmm.
Oui, surtout quand on se retrouve avec le bébé qui vient de naître et un petit peu plus vieux, donc c'est très difficile à prendre.
Oui. Nadine, j'ai l'impression, et vous me corrigez si je me trompe, c'est une maladie qui touche quand même de jeunes personnes, la sclérose en plaques.
Tout à fait. Habituellement, elle est diagnostiquée entre 15 et 40 ans.
Ouais.
Donc, c'est sûr que c'est pas dans le parcours que la personne prévoyait. C'est quelque chose qui vient bouleverser là, les projets, qui demande à la personne de s'adapter beaucoup, ainsi que sa famille. Donc, effectivement, c'est une maladie qui bouleverse. Heureusement, les gens trouvent différentes façons. Il y a maintenant aussi des traitements. Donc, les gens arrivent, pour la plupart, à bien composer, à avoir une belle qualité de vie. Mais de dire que c'est bien accueilli, ce serait vraiment ne pas comprendre que c'est une maladie qui vient bouleverser la vie de plusieurs personnes.
Oui. Surtout d'autant plus lorsque l'on ne connaît pas, on n'a pas idée de comment cette maladie va évoluer. Anna, à 23 ans, lorsque c'est arrivé pour vous, ce diagnostic, vous aviez deux jeunes enfants et vous étiez également maman monoparentale. Je pense qu'on peut le nommer. On s'adapte comment? Bon, bien sûr, je sais que ça a évolué à travers les années, mais quel genre d'outils on peut mettre en place lorsque l'on vit avec la sclérose en plaques et que l'on a des enfants tout jeunes?
De un, je pense qu'il faut juste reprendre sa vie un petit peu en main et d'avaler la pilule de la maladie pour dire que, OK, je l'ai, mais maintenant, il faut que je vive avec pour être capable de donner aux enfants la meilleure des vies possibles.
Ouais.
Personnellement, je crois que quand les enfants étaient jeunes, j'ai pas fait de deuil par rapport à mon ancienne vie et ma nouvelle vie avec la maladie. J'ai juste retourné à l'école pour refaire ma carrière vu que j'étais coiffeuse et maintenant je ne le suis plus.
Mm-hmm.
J'ai éduqué mes enfants et c'est à travers eux que j'ai trouvé la force de continuer à tous les jours.
Oui, il y a des adaptations, des deuils à faire. Hein. Vous le disiez,
oui. Vous
étiez coiffeuse et vous vous êtes retrouvée dans votre cas, Anna, assez rapidement en fauteuil roulant. Lorsqu'on
oui.
le sait, souvent, les coiffeurs sont très, très souvent debout.
Oui.
Les adaptations, et je vais m'adresser à Nadine, est-ce qu'il y a de l'aide pour les familles, les personnes touchées, pour que ce soit adapter la maison, adapter le travail? Comment on peut outiller les gens en ce sens?
Bien, c'est sûr que pour commencer, j'inviterais les gens qui ont des questions de ce type-là à ne pas hésiter à nous appeler. À la Société canadienne de sclérose en plaques. On a des bureaux partout à travers la province, donc on est là pour justement donner des renseignements sur les ressources qui sont disponibles. Il y a le programme d'adaptation de domicile qui consiste en une subvention de la Société d'habitation du Québec pour adapter le domicile. C'est pas parfait, mais ça permet à certaines personnes là, de rester à la maison. Il y a également des programmes bon, pour les aides techniques, des programmes pour de l'aide à la maison là, de la part du CLSC. Donc, il y a différents programmes auxquels les gens ont droit. Et pour ce qui est de l'emploi, il y a des organismes pour aider les gens à se trouver un emploi. Ça demeure quand même un grand défi,
ouais.
Le marché de l'emploi, pour une grande proportion des gens qui ont la sclérose en plaques, surtout celles qui ont beaucoup de fatigue. Il faut reconnaître là, que ça demande beaucoup de détermination et d'adaptation de part et d'autre.
Mm-hmm.
Il y a d'autres personnes pour qui c'est plus facile. Il ne faut pas oublier que la sclérose en plaques, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre.
Mm-hmm.
Mais pour celles qui ont beaucoup de fatigue, c'est difficile.
Mm-hmm. Anna, ça a été quoi pour vous, à travers les dernières années, les plus grands obstacles ou les plus grands défis qui ont été mis sur votre chemin avec la sclérose en plaques?
Je dirais de trouver un emploi,
mm-hmm.
et ensuite de trouver les subventions gouvernementales pour l'adapter, l'emploi,
ouais.
et le milieu de travail. Et honnêtement, c'est la vie à tous les jours avec la maladie. Ça,
ouais.
c'est vraiment le plus gros obstacle.
À quoi ressemble votre quotidien avec la maladie, Anna?
Wow! Le réveil est un petit peu difficile.
Ouais.
Parce que comme Nadine disait, il y a la fatigue et les raideurs musculaires. Donc le matin, c'est la période où ce que les muscles, quand on se réveille, sont le plus raides. Dans mon cas,
mm-hmm.
il faut faire beaucoup d'étirements et tout ça pour que je puisse me lever du lit.
Mm-hmm.
Ensuite, c'est de me laver, de m'habiller et de faire les lunchs aux enfants et tout ça et de venir travailler. C'est compliqué un petit peu parce que tout est vite. Mais
oui.
la maladie ne me suit pas à la vitesse que moi, j'aimerais aller.
Oui. Ce sont des obstacles, j'imagine, que plusieurs personnes qui vivent avec la sclérose en plaques sont amenées à rencontrer. Est-ce qu'il y a certains types de traitements, Nadine, ou encore des approches alternatives pour aider les gens dans leur quotidien?
On est très optimiste parce qu'avant les années 90, il n'y avait aucun traitement, alors qu'aujourd'hui, on a 11 traitements pour ralentir la progression de la forme la plus fréquente de la sclérose en plaques.
Qui est celle qui est cyclique.
Exactement,
oui.
celle qui évolue par poussée et par rémission. Par contre, il n'y a aucun traitement. Encore là, ce n'est pas un remède, là, donc on s'entend qu'on on est content des avancées, mais les manches sont toujours retroussées et on continue à travailler très fort. Et il n'y a pas de traitement pour les formes progressives. Et ça, c'est un de nos principaux objectifs. Là, on a beaucoup, beaucoup d'investissements là, actuellement pour les formes progressives. Donc, les traitements dont je vous parlais pour les formes cycliques, ça a vraiment permis pour certaines personnes de ralentir beaucoup l'évolution de la maladie. Et on a des gens, on a différents types de traitements. Il y en a des plus puissants avec un profil d'effet secondaire un petit peu plus important. Et on n'hésite pas à aller frapper la maladie très tôt dans le cours de la maladie. On sait que les traitements sont plus efficaces quand ils sont utilisés de façon précoce et on voit des résultats très intéressants.
Mais encore, faut-il que le diagnostic se fasse assez rapidement? Et tout à l'heure, lorsque vous nous disiez, Nadine, que les symptômes peuvent être tellement variés, par exemple, des problèmes de vessie ou des problèmes d'ouïe ou de vision, ça peut correspondre à tellement d'autres maladies. Ça doit être difficile d'aller à la cible assez rapidement et directement.
Heureusement, de moins en moins.
Okay.
La maladie est diagnostiquée de plus en plus rapidement. Il y a 10 ans, on disait que c'était une maladie des 18 ou des 20-40 ans. Maintenant, on dit 15-40. C'est pas nécessairement parce que la maladie se manifeste de plus en plus tôt, c'est parce qu'elle est mieux diagnostiquée.
Ouais.
Les critères diagnostiques sont beaucoup mieux définis et on est chanceux au Québec, on a plusieurs centres d'expertise. Et les gens sont référés presque toujours systématiquement dans ces centres d'expertise-là et sont diagnostiqués beaucoup plus rapidement qu'avant.
Oui. Et j'imagine que puisque ça touche beaucoup de monde ici au Canada, il y a des chercheurs qui s'y intéressent particulièrement. On va y revenir. Je veux demander à Anna, c'est sûr que je remonte à il y a longtemps, Anna, dans votre parcours, mais pour vous, ça s'est manifesté comment, la maladie?
Moi, c'était du jour au lendemain.
Ah oui?
Mm-hmm. Oui. Honnêtement, c'était du jour au lendemain. Ça a pris quand même un an et demi avant de le diagnostiquer,
okay. Mais
c'est du jour au lendemain.
Et c'était des troubles d'équilibre ou quel type de problème vous avez rencontré?
Des troubles d'équilibre et l'incontinence. Ça l'a frappé très fort avec l'incontinence dès le début.
Ah oui, hein?
Oui.
Ça a quelque chose d'un peu effrayant, non, Nadine, de dire, OK, du jour au lendemain, il y a des acquis qui tombent, un mode de vie qui change. Bon, j'imagine, ça ne doit pas arriver pour tout le monde de cette façon-là?
Non, il y a beaucoup de gens qui se rappellent quand ils étaient jeunes avoir eu des symptômes et que c'était diffus et tout ça. C'est pas toujours aussi soudain que ce qu'Anna raconte, mais ça arrive parfois que ça l'est. Et effectivement, les gens qui ont la sclérose en plaques vivent un petit peu avec une épée de Damoclès là, au-dessus de la tête. Là. Ça, c'est ce que beaucoup de gens nous disent. Et le fait de ne pas savoir ça va être quoi le prochain symptôme, ça va être quand la prochaine poussée, c'est difficile pour les gens. Ça leur demande...
beaucoup de résilience.
Beaucoup hein? de résilience, ouais. C'est de prendre une journée à la fois et d'en profiter au maximum.
Oui. Je veux revenir à la recherche parce que c'est important de le dire. Hein? Ce pays qui est le nôtre, le Canada, qui est peut-être le plus touché dans le monde, est-ce que ça s'explique, ça, Nadine?
Ça, c'est la question...
À 100 $ oui, c'est ça.
En fait, il y a plusieurs théories. C'est qu'on remarque sur la map, sur la carte du monde, que plus on s'éloigne de l'équateur, plus il y a de sclérose en plaques.
Mm-hmm.
Malheureusement, le Canada à la palme, c'est le pays où l'incidence est la plus forte. Et aux États-Unis aussi, mais au Canada, c'est encore plus. Au Canada, c'est deux fois plus qu'en France. Mais on remarque quand même une constante que vers le nord et vers le sud, plus on s'éloigne de l'équateur, plus il y en a. Par contre, les Inuits sont plus au nord que nous et ont pratiquement pas cette maladie-là. Donc, il y a une prédisposition génétique, il y a des facteurs qui viendraient déclencher la maladie, mais le fait qu'on soit... que les endroits où on est éloigné de l'équateur, les heures d'ensoleillement sont réduites, on est en train d'étudier là, la vitamine D, ouais. Le rôle que ça pourrait jouer, les heures d'ensoleillement qui sont réduites.
Ouais.
Mais ça... Ce que les chercheurs tendent à dire, c'est que c'est plusieurs facteurs qui viendraient jouer.
Oui, c'est pas en prenant des suppléments de vitamine D qu'on va réussir à éloigner la maladie. Là. C'est pas nécessairement une façon de s'en préserver. En revanche, j'imagine qu'il y a des chercheurs, plus de chercheurs ici, qui s'intéressent aux causes et également aux traitements curatifs de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que ça nous dit en ce moment, la recherche, Nadine?
Bien, c'est ça. Au niveau des causes, on sait qu'il y a une prédisposition génétique. C'est quand même une donnée importante. Je veux juste rassurer tout de suite les gens, ce n'est pas une maladie héréditaire. Si j'ai la sclérose en plaques, j'ai de 3 à 5 % de risque que mon enfant ou qu'un de mes enfants ait la sclérose en plaques. Si je suis seule...
Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, 3 à 5 %
Bien, c'est toujours... pour une maman ou un papa, c'est toujours beaucoup, mais il faut retenir qu'il y a quand même 95 à 97 de chances que l'enfant ne l'ait pas.
Oui.
Donc, on ne parle pas d'hérédité là, comme telle. Il faut penser aussi qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer, qui entrent en ligne de compte, comme on disait tout à l'heure. Mais si on revient à la recherche, bien c'est ça, on diagnostique de mieux en mieux, de plus en plus tôt. On traite de façon de plus en plus précoce. On est de moins en moins tolérant envers les poussées, c'est-à-dire qu'une personne qui va entreprendre un traitement, qui va avoir une ou deux poussées, on va passer tout de suite à un traitement, un autre traitement pour tenter de contrôler le mieux possible la maladie. Mm-hmm. On en sait plus aussi sur les habitudes de vie. On sait que l'exercice, le sommeil, la gestion du stress, un bon rythme, un bon mode de vie, ça peut aussi aider les gens qui ont la sclérose en plaques. Évidemment, ça ne guérit pas, mais on a vu des gens dont la mobilité était réduite être capables de se réentraîner. Ça prend un certain temps, on s'entend, mais d'être capable de se réentraîner, d'avoir un certain gain au niveau de leurs muscles. Donc, les habitudes de vie, la gestion des symptômes aussi. Il y a plusieurs symptômes qui sont traités lorsque ça diminue la qualité de vie. Par exemple, la fatigue, la spasticité, les problèmes urinaires. Donc, ça aussi, ça a un impact là, mm-hmm. sur la qualité de vie des gens.
Anna, Salahidine, oui. Vous qui êtes maman de deux jeunes adultes maintenant, est-ce que vous y pensez à ce 3 à 5 % de risque pour eux?
Non, pas du tout. Parce que si j'y pense, ma vie va être difficile à vivre.
Ouais.
Oui.
Pour eux, j'ai envie de m'intéresser, pour eux, ça a été quoi l'impact dans leur vie d'avoir une maman qui a la sclérose en plaques?
J'ai vraiment tout fait pour qu'il n'y ait pas vraiment d'impact dans leur vie. Et puis, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais ils ont grandi en me connaissant en fauteuil roulant,
ouais.
dès le début.
Mm-hmm.
Donc, pour eux, c'est comme ça qu'ils me connaissent. Ils n'ont pas connu une maman en santé avant.
Oui. Ouais. Nadine, en terminant, j'aimerais savoir les services qui sont offerts aux gens partout. Bon, la Société de la sclérose en plaques canadienne, là, c'est un petit peu partout, vous le disiez. Bon, pour les services, là, non seulement pour les gens sur l'île, mais un petit peu ailleurs. Là. Qu'est-ce que... bon, il y a une ligne téléphonique, on peut appeler, à quoi on peut s'attendre?
Je pourrais commencer en disant, je profite du fait qu'Anna soit ici, en parlant du congrès Espoir Famille, parce que ça va être notre 25e congrès cette année. Ça va être une grande célébration. C'est 25 ans d'échanges, de soutien que les gens se sont apportés. C'est du 28 au 30 octobre à Lévis. On invite tout le monde à s'y inscrire. Anna participait au congrès avec ses enfants. C'est un lieu où on essaie de rassurer les enfants, de leur donner de l'information adaptée à leur âge. Et de soutenir tous les membres de la famille. Donc, il y a des ateliers pour les adultes, il y a des ateliers pour les personnes qui ont la sclérose en plaques, pour les conjoints. Je crois me souvenir que tes enfants appréciaient bien, Anna.
Oh, ils adoraient.
Je crois bien me souvenir que tu venais pour les enfants.
Beaucoup plus que moi, oui.
Parce que toi, tu étais très, très bien renseignée.
Et puis, eux, pour aider encore plus, à la fin, ma fille est devenue animatrice dans ces choses-là tellement qu'elle l'aimait.
Oui, tout à fait.
Les congrès, oui.
Donc, une belle expérience aussi là pour elle. Donc, au niveau des services, de l'information sur la recherche, sur les différents aspects de la maladie, de la référence, parce que les gens ont beaucoup de misère à naviguer dans le réseau de la santé, à aller chercher les ressources dont ils ont besoin. On fait notre possible pour les aider à ce niveau-là. On a des groupes d'entraide, on fait de la défense des droits, on fait notre possible, c'est pas toujours facile, mais on essaie d'accompagner les gens lorsqu'ils ont des difficultés avec leur employeur ou lorsqu'ils ont fait une demande à leur assurance et ils ont besoin d'accompagnement. On a des activités physiques adaptées et de loisirs. On fait aussi de la sensibilisation. On a aussi des dossiers là, de relations gouvernementales. On essaie vraiment mm-hmm. de tout faire là, pour améliorer la qualité de vie des gens mm-hmm. prises avec cette maladie-là.
Anna, je vous laisse le mot de la fin pour cette entrevue parce qu'on n'a plus le temps. J'ai envie de vous demander, vous qui vivez avec la maladie depuis 20 ans maintenant, un petit mot. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent, qui viennent d'apprendre un diagnostic pour eux, pour un membre de leur famille?
Moi, je dirais qu'il faudrait sourire à la vie, car la vie nous sourira.
Très inspirant. Oui. Anna Salahedine, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui, de faire votre connaissance. Vous êtes une personne qui me semble tout à fait charmante. Salutations à votre patron, hein, qui, je le rappelle, est très gentil, et bien sûr à vos deux grands-enfants.
Merci.
Nadine Prévost, vous êtes directrice des programmes, services et relations gouvernementales pour la Société canadienne de sclérose en plaques, division du Québec. Un très beau mois de mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques.
Merci beaucoup.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Jocelyne Gadebois, notre infirmière en résidence, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous arrivez avec le soleil?
Avec le soleil.
Un plaisir de vous avoir en studio. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle du méchant streptocoque, entre autres parce que notre bien-aimé Jean-Sébastien Laliberté, derrière la console, a vécu avec ce vilain il y a quelques semaines et on l'a perdu pour quelques jours pour cette raison. Donc, on a eu envie d'en apprendre davantage sur... c'est une infection, hein? Infection bactérienne.
C'est une bactérie. C'est une bien méchante bactérie.
Synonyme, infection et bactérie?
Non, ce n'est pas un synonyme. La bactérie est source, est la cause d'une infection. Ou un virus est la cause d'une infection.
D'accord.
Oui. Alors, c'est une bien méchante petite bête. Alors, c'est une bactérie qu'on appelle bactérie pyogène. Ça veut dire qu'elle peut produire du pus. Et c'est dans le microscope, on voit une petite chaînette.
Ah oui.
Une série de petites chaînettes qui forment des colonies de petites chaînettes. On en connaît plusieurs souches, une soixantaine.
OK.
Alors, elle est responsable d'un grand nombre d'infections, pas d'une seule, d'un grand nombre d'infections. Puis elle est exclusivement pathogène chez la personne, chez l'humain.
Pathogène, ça veut dire quoi?
Qu'elle développe la maladie seulement chez l'humain.
Ah,
comme,
d'accord.
Comme okay. Les bovins en sont porteurs aussi, peuvent la transmettre, mais le bovin, lui, ne sera pas malade.
OK.
D'accord?
Quand vous dites qu'elle est responsable d'une multitude de bactéries, est-ce que c'est tous pour le streptocoque? Le streptocoque?
Le streptocoque est responsable, je vais vous nommer plusieurs petites et grandes infections.
D'accord.
Qui sont causées par le streptocoque. L'angine, c'est le mal de gorge ou la pharyngite.
Oui.
Alors, avec fièvre, avec hypertrophie des amygdales, les ganglions qui sont sensibles, des malaises généraux, l'angine, la pharyngite, douleur à la gorge, effectivement, difficulté à avaler. La scarlatine, elle est causée aussi par cette bactérie. C'est une maladie contagieuse, la scarlatine. L'impétigo. C'est aussi causé par le streptocoque. Il y a des pneumonies qui sont causées par le streptocoque aussi. Et il y a la fasciite nécrosante. Vous savez, cette maladie, cette infection fulgurante qui se développe très rapidement puis qui crée parfois des amputations.
Et là là.
Comme le cas de M. Bouchard.
Ah, maladie mangeuse de chair.
Mangeuse de chair.
C'est ça. Quand on dit vilain streptocoque, là, on est vraiment très près de la vérité, Jocelyne.
Oui, exactement.
Donc, on a pu voir qu'il est responsable de beaucoup de choses. C'est contagieux?
C'est très contagieux.
OK.
Par les mains, par le contact avec les lésions, si c'est l'impétigo. Mm-hmm. Particulièrement. Ben
oui. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, parfois ça se manifeste par des maux de gorge, mais parfois ça peut avoir d'autres manifestations.
Oui, tout à fait.
OK. Et ça, c'est le médecin qui le diagnostique assez oui. bien parce que c'est oui. les petites chaînettes là, que l'on peut voir.
Non, on ne les non. voit pas, les petites chaînettes. On les voit au microscope.
Oui, c'est ça, par le
quand
microscope.
Quand on fait une analyse bactérienne.
D'accord.
Alors, le médecin va faire son diagnostic par des prélèvements de la gorge qu'on va mm-hmm. faire mm-hmm. ou des lésions, mm-hmm. par des prises de sang. Où il va avoir dans le corps des manifestations d'une infection, mm-hmm. les globules blancs plus élevés, par exemple, par tout l'ensemble des symptômes qui sont devant lui. Mm-hmm. Alors là, il va être diagnostiqué et c'est avec l'examen bactériologique qu'on va vraiment dire, bien, c'est cette petite bébite-là qui est la cause.
Et là, c'est antibio.
C'est antibiothérapie. Et effectivement, depuis le temps qu'on traite le streptocoque, elle est devenue résistante à certaines antibiotiques.
Oh.
Alors, le médecin doit vraiment être prudent dans son choix d'antibiotiques, mais il est très au courant de ça. Puis, parfois même, il peut faire un test qui va lui dire quels sont les antibiotiques qui vont répondre le mieux au traitement.
OK. Est-ce qu'il peut y avoir des complications?
Absolument.
OK.
Des complications comme septicémie. Si on a une infection pharyngique puis que ça monte à l'oreille, ben une otite
oui.
moyenne,
oui.
On peut avoir une méningite.
Oh.
On peut avoir une endocardite, une péricardite, puis on peut avoir un syndrome du choc toxique.
OK. Puis, méchant streptocoque.
Méchant streptocoque. Puis si vraiment, comme un syndrome du choc toxique, si c'est pas pris à temps, ben c'est un décès.
Oui. Ça touche les enfants. Hein? Je le disais en introduction, là, 20 à 30 des maux de gorge chez les enfants sont dus au streptocoque. Si ça arrive à notre petit, est-ce qu'on peut le soulager à la maison? Bon, il a reçu un diagnostic, il y a les antibiotiques, mais est-ce qu'il y a une façon de faire pour prendre mieux soin de notre enfant?
Il faut l'hydrater, mm-hmm. premièrement. Il faut lui donner ses analgésiques régulièrement et ses antibiotiques régulièrement. Il n'y aura pas beaucoup d'appétit, mais on va essayer quand même de lui donner des aliments qui sont plus mous oui. pour qu'il puisse avaler plus facilement. Puis je pense que c'est le repos.
Oui. C'est le temps des Monsieur Freeze, là.
Pardon?
C'est le temps des Monsieur Freeze.
Oui, 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 des glaçons, oui, des choses comme ça. Ça aide énormément.
Et pour les adultes, ben même chose, hein, j'imagine.
Oui, exactement les mêmes symptômes.
Et on tarde pas à aller chez le médecin.
Non, dès les premiers symptômes, quand on s'aperçoit qu'on fait de la fièvre pendant 3 jours, puis qu'on a vraiment un mal de gorge qui persiste, effectivement, oui, on va voir le médecin. Ça peut guérir sans antibiotiques.
Oui.
Ça peut durer de 7 à 10 jours, puis on est contagieux une semaine après. Quand on prend des antibiotiques, au bout de 1 à 3 jours, on n'est ouais. plus contagieux.
Oui, puis si jamais, là, on pense qu'on est malade et contagieux, on reste à la maison.
On reste à la maison.
Et on se repose.
Effectivement.
Jocelyne Gadebois, merci beaucoup. Je vous redonne au soleil.
Oh, merci.
Vous pourrez aller mettre le bout du nez à l'extérieur.
Oui.
Merci Jocelyne.
Bonne journée.
Merci Jean-Sébastien Laliberté pour l'inspiration à ce sujet. Et surtout, merci à la vie d'être revenu sans trop de complications après le vilain streptocoque. Marianne Paquette au micro, portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Bye bye.